Et tu as entendu qu'il y aura encore une intervention après. Ah. Chers amis, je m'en vais de m'empresser de vous délivrer le merveilleux message de l'Évangile et de laisser à nouveau la place à la chorale. Donc, ne soyez pas impatients et surtout ne vous endormez pas. Nous sommes toujours très heureux d'annoncer l'Évangile. Parce que comme vous l'avez entendu au travers du témoignage de mon épouse, elle cherchait la paix. Elle vivait dans un pays de paix. Mais elle n'avait pas la paix dans son âme. Jusqu'au jour où elle va rencontrer le prince de la paix. Jésus qui donne la paix véritable. Ça veut dire que je me tiens devant vous pour vous annoncer l'Évangile. C'est parce que très tôt dans mon enfance, on m'a montré la voie par excellence, me disait-on. Parce qu'on nous avait enseigné que le seul vrai Dieu avait d'abord donné aux hommes une religion, au peuple d'Israël au travers de Moïse. Et qu'après, le peuple d'Israël n'ayant pas été capable de suivre la loi de Moïse, Dieu a donné une deuxième religion aux hommes par Jésus-Christ, qui a donné le christianisme. Et alors on nous enseignait que puisque les chrétiens également n'ont pas été capables de marcher selon les voies de Jésus-Christ, c'est pourquoi soit dit en passant, on comptait comme des hypocrites, on nous comptait comme des hypocrites. Donc, moi, je trouve les hypocrites sur les chrétiens. Ils ont le nom, mais ils n'ont pas la pratique. Alors, Dieu a envoyé une troisième religion, qui est la dernière et la plus grande de toutes, l'islam. C'est pourquoi, eh bien, quand on grandit dans cette religion, on se dit qu'on n'a pas le droit de retourner en arrière vers les précédentes, parce que la dernière révélation est la meilleure. Et pourtant, mes amis, avec la meilleure religion des hommes, j'ai cherché Dieu et je ne l'ai point trouvé. Je me souviens qu'à la rupture du jeûne, pendant le ramadan, vous savez, du lever au coucher du soleil, on s'abstient de manger, de boire. Même les fumeurs ne fument plus pendant cette période. Et à la rupture du jeûne, après la prière, je m'approchais de l'imam qui m'avait fait prier avec mes questions sur l'éternité, sur le salut de mon âme, sur Dieu. Et bien sûr, il me donnait des réponses qui ne satisfaisaient pas du tout mon âme. Et bien sûr, j'ai compris plus tard qu'en effet, il ne peut pas me donner les bonnes réponses, car elles ne sont que dans un livre, la Bible, la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué à jamais. Alors, après avoir pratiqué, après avoir cherché, n'ayant pas trouvé la réponse, je suis allé vers d'autres, croyant qu'ils étaient plus instruits que le premier et qu'ils pouvaient m'aider. Personne n'a su m'aider. Alors, je me souviens un soir, après avoir fait la dernière prière, j'ai adressé une prière personnelle à Dieu. Je ne le connaissais pas. Mais je lui ai dit, je crois au fond de moi-même que tu existes. Mais je ne suis pas convaincu que tu sois dans la religion des hommes. Alors si tu existes, révèle-toi à moi. Et quelle que soit la voie dans laquelle tu te révéleras, je te suivrai, je te servirai. Et quand j'ai fait cette prière, quelque part, elle m'avait beaucoup soulagé. Car je me suis dit, je ne vais plus me tracasser à pratiquer une religion sans conviction. Je vais donc arrêter de prier. Et c'est comme cela que quelques temps se passent après, Dieu a permis que j'arrive ici en France. Ah, Paris, Paris, je débarque à Paris. Je pense à tout sauf à Dieu et à ma prière. Et voilà qu'un jour, Dieu va permettre que quelqu'un qui connaissait Jésus-Christ vienne vers nous, les étudiants, avec son petit prospectus. Il parle de Jésus. Les uns regardaient, ils n'acceptaient pas. D'autres prenaient aussi, ils jetaient par terre. Quand je suis arrivé, il m'a attendu, j'ai regardé. J'ai dit, mais c'est quoi? Ah, ça parle de religion. Ah, non. Tenez. Il dit, non, vous pouvez garder. Bon, alors, je suis parti. Et à la fin du cours, je ne savais pas que cet étudiant était dans la même classe. Dans le même amphi pour suivre les cours. Et quand on sort, elle vient vers moi et me dit, mais monsieur, pourquoi vous avez dit que ça ne vous intéresse pas? J'ai dit, mais écoutez, mademoiselle, moi je viens d'arrêter de pratiquer la meilleure des religions, la plus grande de toutes. Elle ne m'a pas pu faire connaître Dieu. Ce n'est pas la vôtre. Vous êtes plus chrétienne. Vous êtes christianiste. Non, vous en parlez ça. Alors Dieu ne m'en parle pas. Je n'en veux plus. Ah, quand j'ai dit cela, je pense qu'elle allait me laisser tranquille. Mais voilà qu'elle me répond. Mais vous avez raison, monsieur. Dieu, ce n'est pas dans une religion que vous allez le trouver. Parce que Jésus-Christ a dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu que par moi. Il dit, ce n'est pas au travers d'une religion que l'on peut trouver Dieu, c'est au travers de Jésus-Christ. Ça m'a coupé la parole, je n'ai plus pu répliquer. Et on s'est quitté. Mais quand, je ne sais pas qu'est-ce qu'il me prenait, je veux oublier cette parole. Elle revient, elle tourne comme en boucle. Alors mes amis, je ne sais pas si c'est dans ma tête ou dans mon cœur ou ailleurs, en tout cas, la parole ne me quittait plus. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu que par moi. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça signifie cela? Alors, un moment, j'ai dit, bah, écoute, on va faire autre chose pour oublier. Mais je n'arrivais pas à oublier. Le lendemain, je me suis réveillé, je dis, mais c'est pas possible. Pourquoi cette parole revient? Et le temps a passé comme cela. Et voici qu'un jour, au moment où je viens pour manger au restaurant universitaire, elle avait fini de manger. Elle m'a dit, écoutez, si vous avez fini de manger, venez me voir, j'ai un cadeau pour vous. Ah, un cadeau. Je vois un gars là-bas qui sourit parce que les garçons, vous savez, quand une jeune fille vous dit, j'ai un cadeau pour vous, moi, je pense pas à Dieu. Et voici que j'arrive, elle me dit, écoutez, suite à ce qu'on a dit l'autre jour, j'ai pensé vous offrir ce cadeau. Lisez ce livre. Si vous êtes sincère avec vous-même, ce livre vous fera connaître Jésus-Christ. Et Jésus-Christ vous fera connaître le vrai Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mais surtout, commencez par le Nouveau Testament. Elle a mis là un signet, elle m'a offert la Bible. Je suis parti. Et à la fin de mes cours, je suis allé dans ma chambre d'étudiant, j'ai commencé à ouvrir la Bible. Mes amis, je bénis le Seigneur, je loue Dieu, je lui rends grâce et gloire. Je sais que page après page, je découvrais les réponses aux questions que j'avais sur Dieu, sur l'éternité, sur la justice, sur l'amour. Ah, mes amis, quand je lisais les évangiles, je disais, mais pourquoi on ne nous a jamais parlé de cela? Car nous, on nous avait dit que depuis le jour où Dieu a créé le monde, qu'il l'a jeté par derrière lui, par derrière son épaule, il ne s'en est plus jamais souvenu. On nous faisait croire que Dieu le Tout-Puissant est assis sur son trône de gloire. Il observe tous les faits et gestes des êtres humains, qu'il va ensuite un jour nous appeler en jugement devant lui. Et alors, nous serons condamnés et nous serons tous en enfer. Car il n'y a pas un seul juste parmi les hommes. Peut-être que quelques-uns passeront toutes les années en enfer, mais d'autres peut-être passeront par le purgatoire, mais je ne sais pas comment on disait, mais enfin, il passera un temps d'abord en enfer. Voilà comment on nous avait présenté Dieu. Un Dieu qui ne fait rien pour l'homme, qui ne s'occupe pas de l'homme et qui l'attend pour le juger et le condamner. Alors que dans les évangiles, je voyais tout le contraire, mes amis. Oh, j'ai commencé à esprit de passion pour ce Jésus. Ah, je me suis dit, mais ce Jésus, moi, j'aimerais le connaître. J'aurais aimé vivre en son temps pour le voir. Et il y a aussi quelque chose de Jésus qui me bouleversait. C'était sa douceur et surtout la vérité qui émanait de lui. Car je me souviens,
J'étais toujours interpellé par cette discussion avec les chefs religieux. Et cela me faisait penser réellement à ce que j'avais vécu à l'époque. Eh bien, les religieux sont convaincus qu'ils sont dans la vérité, qu'ils détiennent la vérité, alors qu'ils ignorent tout de Dieu et de la vérité de Dieu. Ah, les paroles de Jésus, ces réponses qui bien souvent fermaient la bouche aux Sadducéens, fermaient la bouche aux pharisiens. Mes amis, je disais, mais oui, voilà, c'est ça. Oh, béni soit Dieu. J'ai commencé, mes amis, à ne plus me détacher de la Bible. Je lisais, je relisais, je lisais, je lisais. Voilà qu'arrive un moment où il faut se décider. Je ne vais pas me décider comme cela. Il faut que je puisse d'abord vérifier la vérité de ce que je lis. Alors, comme si elle savait, cette personne m'invite. Elle dit, je serais bien que vous veniez écouter l'évangile. Et puisque plusieurs fois je disais, oui, je viendrai, mais je ne venais jamais. Un vendredi, elle m'a dit, écoute, si tu peux venir le dimanche, dans ce cas, viens le vendredi. Ah oui, je veux bien. Et me voilà à l'église pour la première fois un vendredi soir. À l'époque, dans cette église, c'était la réunion de prière. Et à l'époque, ils avaient des coussins qu'ils se mettaient sous les genoux et ils se mettaient à genoux pour prier. Alors, je ne dis pas que la puissance la prière à genoux, hein. Mais à peu. Quelque part, c'est quand même une position de bon, parce que, bref. Alors, je me suis assis au milieu d'eux. Ils ont chanté, le pasteur a prêché, ils se sont mis à prier. Moi, j'étais là, assis, le temps que ça se passe. Alors, je me dis, attends, c'est ridicule, tu vas rester comme ça, assis, les autres sont à genoux. Alors, mets-toi à genoux. Alors, je me suis mis aussi à genoux, comme ça, dans la chaise. Et je me suis levé à la fin de la prière. Chers amis, vous pouvez me croire, vous pouvez ne pas me croire, mais pour la première fois de ma vie, quand je me suis relevé, j'ai ressenti un bien-être qu'on ne peut pas expliquer, mais un bien-être qui était au fond de moi, et que j'explique ainsi. C'est comme si j'étais venu avec un lourd manteau, très lourd, et qu'on me l'avait déchargé, vous savez. On se sent si léger. Je n'ai pas chanté, je n'ai pas participé, je n'ai pas prié. Et comment ça peut dire que je me sens si bien? Elle m'a dit, écoute, ça, c'est le Saint-Esprit. Mais c'est quoi le Saint-Esprit? Écoute, tu comprendras ça plus tard. Ah, je sors. Ah, je dis, mais attends, non, il faut que tu fasses attention parce que tu as été impressionné parce que pour la première fois, tu es venu dans une église. Pour la première fois, tu as assisté à une prière, pas comme chez toi. Parce que chez nous, vous savez comment c'est la prière. C'est des récitations. Alors que là, il parlait à Dieu. Bon, c'était ça qui t'a impressionné. Mais voici qu'elle insiste. Et elle me dit, ce serait bien que tu viennes. Parce que le restaurant universitaire est fermé ce dimanche. Donc tu peux venir, on va manger ensemble à midi, comme ça on ira après au cul à la réunion. Alors j'ai dit, ben oui, c'est vrai, tant qu'on peut manger, allons-y. Et me voilà à l'église. Chers amis, ce jour-là, j'ai eu l'impression qu'elle avait parlé de ma vie au pasteur et que ce dernier avait préparé sa prédication pour répondre. Tellement c'était clair et précis. Ah, mais ça, c'est quelque chose. À la fin, j'ai dit, attends, est-ce que tu vas parler de moi au pasteur? Eh bien, écoute, je ne vous connais pas assez pour vous parler de vous au pasteur. Qu'est-ce que je peux vous dire de vous au pasteur? J'ai dit, ah oui, quelque part, c'est vrai. Alors, je reviendrai une autre fois. Je me suis dit, cette fois-ci, je viendrai à l'improviste. Je viendrai par surprise. Et ce jour, je suis venu sans rien dire à personne. Et dans cette église à Paris, il y a des poteaux dans l'église. Je dis, ça tombe bien, je suis planqué derrière un poteau.
Comme ça, j'étais sûr que le prédicateur ne savait pas que j'étais présent. Car, bon, lui, il ne sait pas comme moi, il reste bien là, donc c'est bien.
Et donc, moi, je viens derrière mon poteau. Et quand je fais comme ça, voilà, pour que tu sois sûr qu'il ne me voit pas.
Et ce jour-là, il va encore parler de cet homme qui veut connaître qui est Jésus et qui se cache dans un sycomore. J'ai dit, alors là, me voilà dévoilé, je sais que vraiment Dieu est ici. Ami, l'évangile, je n'en ai point honte, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si je vous dis ces détails, chers amis, c'est pour que vous puissiez comprendre que véritablement Dieu est un Dieu d'amour, que Dieu n'est pas ce que nous imaginons, ce que bien des fois les religions nous ont présenté de lui. Mes amis, cet après-midi, Dieu veut se révéler à vous tel qu'il est, pour que vous aussi puissiez croire en lui et que vous soyez sauvés. Que son nom soit béni à jamais. Amen. La suite, je vous dirai cela la prochaine fois. Parce que si Dieu est devant vous, c'est que je me suis converti, c'est que j'ai été baptisé dans l'eau. Si je suis devant vous, c'est parce que, bien sûr, Dieu a continué à se révéler. À lui soit la gloire pour toujours. Amis, j'aimerais terminer ce moment avec vous par cette lecture que nous avons sous nos yeux depuis vendredi soir. Dans l'Épître aux Romains au chapitre 1. Romains chapitre 1. Il est écrit au verset 16. Je n'ai point honte de l'évangile. Puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement. Lui dit grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Seigneur, cet après-midi, dans ce lieu, étends ta grâce et ta puissante main maintenant, pour disposer le cœur de chacun d'entre nous à l'écoute de ta voix. Permets qu'au travers de la prédication de l'Évangile, malgré la faiblesse et les limites humaines, le Saint-Esprit se saisit de ta parole pour qu'elle devienne esprit et vie dans le cœur de ceux et de celles qui l'entendent, afin d'engendrer la foi en Christ Jésus, la foi qui amènera ses amis eux aussi à la repentance, à la conversion devant toi. Car ta volonté, c'est que tous soient sauvés, qu'ils parviennent tous à la connaissance de la vérité et du salut qui est en Jésus le Christ. Voilà pourquoi maintenant, Père, viens supplier aux faiblesses du prédicateur pour notre Dieu agir de telle sorte que cet après-midi, il se passe le miracle de la nouvelle naissance dans la vie de quelques-uns et que toute gloire t'en soit donnée. Tu arraches les âmes cet après-midi de la puissance des ténèbres. Tu les transportes dans le royaume du Fils de ton amour, Jésus le Christ. Cet après-midi, tu triomphes de l'obscurité. Tu triomphes des ténèbres. Tu triomphes du mensonge. Tu triomphes de l'ignorance. Tu triomphes de toute opposition et de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de la vérité. Tu rabats tout cela maintenant au nom de Jésus afin de libérer les captifs et de donner gloire à ton Saint-Nom. Père, par avance, te disons merci dans le puissant nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Alléluia. Amis, c'est là une grande nouvelle que Dieu veut vous révéler, que Dieu veut vous aider à comprendre. Cet homme était au départ un croyant qu'on appellerait aujourd'hui fondamentaliste. Vous savez, ceux-là qui sont tellement convaincus qu'ils sont prêts à tuer les autres au nom de leur foi, au nom de leur Dieu. Eh bien, celui qui écrit ces choses, c'était un intégriste, quelqu'un qui était tellement radical, tellement radicalisé, eh bien, qu'il n'acceptait pas, eh bien, de contradiction, qu'il n'acceptait pas autre chose que ce que sa tradition, que ce que sa religion lui avait enseigné depuis son enfance. Cet homme qui écrit ces choses, c'est quelqu'un, eh bien, qui croyait détenir la vérité et qui se battait pour la vérité, pour sa vérité, celle de sa religion. Cet homme était convaincu que c'est la voie de l'Éternel qu'il suivait. Mais en agissant ainsi dans son ignorance, eh bien, il s'opposait à la vérité qui pouvait sauver son âme, car il s'opposait à l'Évangile, il s'opposait à Jésus le Christ. Et voici que Dieu, dans son amour, dans sa compassion et dans sa miséricorde, va un jour arrêter cet homme, car il se rendait à Damas pour persécuter les chrétiens, ceux qui croyaient en l'Évangile de Jésus-Christ. Et sur le chemin, en plein midi, eh bien, Jésus-Christ va se révéler à lui. Une lumière éblouissante dans le ciel lui apparaît. Eh bien, ces faisceaux lumineux vont l'aveugler. Cet homme tombe par terre. Et il entend une voix qui appelle. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il se sera dur de régimber contre les aiguillons. Alors, tremblant, il dit, mais à qui es-tu, Seigneur? Et la voix lui répond, Jésus de la Nazareth. Alors cet homme, le premier dit, Seigneur, je veux que tu te fasses. Entre dans la vie. Et bien, on se dit, ce que tu vas faire. Alors ceux qui l'accompagnaient vont lui prendre la main, à qui a donné, et vont le conduire devant une maison. Il m'a aidé à prier, à supplier le Dieu qui l'a donné. Jésus-Christ, il reconnaît les comme étant réellement celui qui avait été brisé, celui qui avait été dénié, celui qui avait été crucifié, celui qui croyait être simplement un blasphémateur, car il s'était déclaré fils de Dieu. Et bien maintenant, il reconnaît qu'il est réellement ressuscité, qu'il est réellement glorifié, qu'il est réellement le Seigneur, qu'il est réellement le Tout-Puissant. Alors, il est le Seigneur de mon Dieu. Et bien, cet après-midi, à des jours précieux, soit l'expérience de quelqu'un. Tu résistes à l'appel de Dieu. Tu entends sa voix, tu reconnais que c'est la vérité. Mais au fond de toi, il y a comme quelque chose qui te frappe. Au fond de toi, il y a comme quelque chose qui résiste. Les âges de ta vie, que tu es la révélation de Jésus-Christ, qui t'amènera à changer radicalement de position en reconnaissant que tu t'es trompé par Jésus-Christ et Seigneur. Alléluia. Que son nom soit béni à jamais. Ce-tu qui écrit ces choses-là, eh bien, cet homme, pendant qu'il est à Damas, eh bien, qu'il prie, qu'il jeûne, car il n'a pas faim, eh bien, Jésus envoie un disciple à son secours pour prier avec lui. Il lui impose les mains, alors ses yeux s'ouvrent, et des cailles tombent de ses yeux, et il se fait baptiser au nom de Saint Jésus-Christ. Et cet homme devient l'apôtre Paul. Et il écrit, je n'ai point honte de l'évangile, parce que la lumière est venue d'éclairer. Maintenant, il comprend. Qu'en réalité, il n'y a de salut en aucun autre. Qu'il n'y a aucune voie, il n'y a aucune religion, il n'y a aucune tradition qui puisse permettre à l'homme d'être sauvé. Il n'y a que la foi en Christ Jésus. Que notre Dieu nous bénisse. Amen. Voilà pourquoi cet homme, eh bien, maintenant, va consacrer sa vie à l'annonce de ce glorieux message. Or, ça me dit, il y a là cette vérité qu'il dit au sein de l'Évangile. Il dit que non seulement c'est une puissance, car lui l'a expérimenté. Cette puissance l'a jeté par terre. Mais il reconnaît que c'est une puissance. Parce que dans l'Évangile est révélée la justice de Dieu. Par la foi et pour la foi. Oh, ami, Dieu veut, ça veut dire, vous aider à comprendre qu'en effet, seul l'évangile permet à celui qui l'écoute attentivement et qui prend à cœur de lire l'évangile, eh bien, seul l'évangile va permettre à l'être humain, eh bien, de connaître le véritable Dieu, le vrai Dieu, et le connaître tel qu'il est véritablement, savoir un Dieu tout puissant, certes, mais un Dieu juste. Et un Dieu d'amour. La Bible dit, l'évangile révèle la justice de Dieu. Justice que Dieu va démontrer. Car avant même le commencement, avant la création, Dieu dans sa nature est un Dieu juste. C'est un Dieu de justice. En qui il n'y a point d'iniquité, ni d'injustice. Dieu est éternellement juste dans sa personne et donc juste dans ses actions. C'est pourquoi quand il a créé l'homme, dans sa justice, il a créé l'homme avec amour. Et il a créé l'homme également avec la liberté et le libre arbitre de l'être humain. Dieu, certains le disent, et bien quand on les écoute, ils auraient voulu que Dieu fasse de l'être humain un partenaire, quelqu'un qui n'a pas de volonté propre. Ce ne serait pas juste, mes amis. Car si l'être humain n'a pas le choix, on ne peut donc pas lui imposer quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est parce que Dieu est juste. Il a créé l'homme libre. Mais il a créé l'homme sans péché. Et parce que Dieu est juste, Dieu va dire à l'homme à qui il a donné le meilleur. Car Dieu, après avoir créé le ciel, la terre et tout ce qu'il contient, pour que l'être humain puisse vivre heureux, Dieu va planter un jardin d'Éden. Vous avez entendu parler d'Éden? On appelle cela encore le paradis. C'était un jardin de délices. Et c'est dans ce jardin que Dieu a placé l'homme qu'il va aussi lui donner une compagne, une épouse. Parce que Dieu, dans sa justice, a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oh, que Dieu est juste. Alléluia. Il a donné le meilleur à l'homme. Un jardin formidable. Et au milieu de son jardin, il lui a donné aussi une épouse formidable. La plus belle des roses dans le jardin d'Éden, c'était Ève, pour Adam. Qu'est-ce que vous en pensez? Si votre épouse n'est pas la plus belle, demandez au Seigneur de vous aider, qu'il vous ouvre les yeux. Chers amis, Dieu dans sa justice, parce qu'il est un Dieu d'amour et voulait le bonheur de l'homme pour toujours, lui a confié le jardin. Et Dieu lui a dit, eh bien écoute, tu vois, dans ce jardin, tu peux manger de tous les fruits de tous les arbres. Prends-en soin, cultive, prends, occupe-toi de ce jardin. Seulement, je t'avertis, il y a dans ce jardin un arbre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu n'en mangeras point du fruit, car le jour où tu en mangeras, eh bien tu mourras. Mes amis, c'était de la justice de Dieu d'avertir l'homme pour que l'homme ne soit pas pris par surprise. Si l'homme était allé manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal sans savoir que c'était dangereux, eh bien Dieu ne serait pas juste à l'égard de l'homme. Mais c'est parce que Dieu est juste que Dieu a averti l'homme et la femme. Alors vous n'en mangerez pas. Dans leur libre arbitre, ils ont fait le choix de se laisser séduire par le tentateur. Oh, je ne vais pas ouvrir une autre parenthèse parce que on y sera pour longtemps. Mais le diable est venu séduire l'homme et la femme. Au travers de la femme, il est venu toucher l'homme. Des fois, on s'en prend aux femmes. On s'en prend à Ève. Et quelque part, est-ce que ce n'est pas un peu la faute d'Adam? Qu'est-ce que vous en pensez des hommes? Si Adam avait été l'homme qui veille sur sa femme, il doit dire, écoute chérie, non. C'est pas cette voix qu'il faut écouter. Bien, allez, allons-y ailleurs. Il est au milieu, mais allons-y à l'est du jardin. Allons à l'ouest ou au sud du jardin. Ne restons pas avec lui. Mais non, Adam n'a pas fait. Donc, n'accusons pas si facilement la femme. Parce que le malin, le diable, c'est son nom, a su que s'il touche celui qui est chair de la chair de Adam, celle qui est os de ses os, eh bien, il se dit certainement, je vais l'avoir aussi. C'est pourquoi, eh bien, l'homme et la femme ont tous les deux désobéi. Ils ont mangé de la connaissance du bien et du mal. Et leurs yeux se sont ouverts, non pas sur leur bien, mais sur leur misère. Leurs yeux se sont ouverts sur la réalité de la chute, les conséquences de leur désobéissance. Amis,
il était de la justice de Dieu, parce que Dieu ne peut pas ne pas être juste.
Dire, si tu désobéis, tu vas tirer les conséquences de ta désobéissance. Et quand l'homme désobéit, il dit, ah ben, c'est pas bien grave. Non, mes amis, Dieu ne serait pas juste. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je prie Dieu de ce que, mes amis, les pages de la Bible qui précèdent les quatre évangiles, eh bien, nous montrent l'histoire de l'humanité prise avec les conséquences terribles du péché qui a dégradé tout ce que Dieu avait créé et qui était bon et même très bon. L'histoire du peuple d'Israël va montrer l'incapacité de l'être humain, eh bien, à vivre dans l'obéissance à Dieu, malgré toutes les bontés, tous les bienfaits que Dieu va manifester à l'égard de ce peuple. L'être humain va montrer son incapacité, eh bien, à garder le bien et le bonheur que Dieu lui a donné. Mais parce que Dieu est un Dieu d'amour, eh bien, il n'a pas abandonné l'homme pour autant. C'est pourquoi l'apôtre dit que le salut, eh bien, il vient d'abord premièrement pour le Juif. Parce que malgré la désobéissance d'Israël, eh bien, Dieu a suscité un puissant sauveur au milieu d'Israël pour que d'abord Israël soit secouru et qu'ensuite le grec, ça veut dire le non-juif, nous tous, nous sommes également secourus et bénis par l'Éternel. Que son nom soit béni. Amen. Mes amis, l'Évangile nous révèle la justice de Dieu en ce qu'étant le Créateur, eh bien, bien qu'étant en droit de punir l'homme, il n'a pas pour autant abandonné l'homme à jamais, car il a promis d'envoyer vers l'homme celui qui viendrait secourir l'homme et le sauver parfaitement. Voilà pourquoi l'Évangile est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui descend parmi les hommes. Au travers d'une sainte Vierge, Jésus vient dans ce monde dans un corps semblable à notre corps. Jésus va grandir comme nous avons tous grandi dans une famille. Jésus, eh bien, va désormais, à l'âge de 30 ans, entrer dans le but de sa venue sur terre. Il va commencer à accomplir son ministère. Et je bénis Dieu de ce que l'Évangile nous révèle la justice de Dieu au travers des œuvres extraordinaires de Jésus. Car, mes amis, la Bible nous montre Jésus, celui qui va de lieu en lieu, pour consoler les cœurs brisés. Celui qui va de lieu en lieu pour guérir les malades. Celui qui va de lieu en lieu, mes amis, et pour que ceux qui étaient pris au piège de l'infirmité puissent connaître la liberté. Jésus va aller de lieu en lieu pour rencontrer ceux qui, eh bien, sont tenus, possédés par les esprits méchants qui leur font faire des choses terribles, comme cet homme de Gadara, qui, eh bien, était tellement violent contre lui-même qu'il prenait des pierres pour se blesser quand la puissance des démons se manifestait en lui. Jésus va venir délivrer cet homme par sa parole. Et Jésus va délivrer comme cela. Pendant 3 ans et demi environ, il va démontrer à l'humanité qui vit dans la puissance du malheur et des ténèbres, dans la puissance, eh bien, diabolique, Jésus va démontrer l'amour de Dieu et sa justice, eh bien, en délivrant tous ceux qui croyaient en lui. Quiconque criait à Jésus, il s'arrêtait pour lui répondre. Et la Bible dit, même en citant cet épisode, pour que nous puissions bien comprendre, qu'il y a une femme cananéenne qui va crier, quand elle apprend que Jésus traverse sa ville, elle va venir, elle va dire, Seigneur Jésus, eh bien, aie pitié de moi, ma fille est tourmentée par les démons. Jésus ne lui répond pas. Elle continue à crier après lui. Jésus, a pitié de moi. Les disciples de Jésus s'approchent. Mais maître, mais renvoie cette femme. Parce qu'elle crie après nous. Et, comme diraient les jeunes aujourd'hui, eh bien, elle nous prend la tête. Mais cette femme, elle continue. Alors, à un moment, elle vient, elle dépasse les disciples, elle vient devant Jésus. Elle dit, non, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose pour moi et ma fille. Le Seigneur dit, mais, femme. Tu ne suis venu que pour les brebis de la maison d'Israël. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais Seigneur, aie pitié de moi et ma fille quand même. Parce que toi seul as le pouvoir de nous délivrer.
Alors Jésus lui dit, écoute, femme, il n'est pas bien de prendre le pain des petits-enfants et de le donner aux chiens. C'est une image très forte. Moi, j'en connais des orgueilleux qui ont dit, ah bon, ça, c'est le trop. Me traiter de chien en plus et de petit chien, j'en connais qui seraient partis. Non, amis, si vous voulez voir la gloire de Dieu, acceptez que vous ne comprenez pas toujours ce que Dieu dit, ce que Dieu fait. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Car la Bible déclare que cette femme, eh bien, va répondre à cette parole. C'est vrai. Mais sous la table du maître, les petits chiens mangent les miettes qui tombent. Alléluia. Jésus dit, avez-vous entendu? Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'instant même, le démon a quitté sa fille. Alléluia. Elle a été libérée. Elle a été libérée par ces deux choses que Dieu veut vous révéler. Elle a été libérée par la puissance de la parole de Jésus. Elle a été libérée par la puissance de la foi. Parce que sa mère a cru. Eh bien, ce qu'elle a cru, cela s'est accompli pour elle. Cet après-midi, amis, ce que vous croyez que Dieu est capable de faire, si vous ne doutez pas, approchez-vous de Dieu. Croyez que Dieu va le faire et vous voulez s'accomplir. Car Dieu est tout puissant et il est juste pour accomplir sa parole. De son nom soit béni. La parole de Dieu nous révèle l'évangile qui nous montre Dieu dans sa justice. Car c'est injuste, eh bien, que Dieu montre à cette femme que véritablement, quand un malheureux crie, qu'il soit juif ou non juif, qu'il soit croyant ou incroyant, le jour où un malheureux prend conscience de sa misère et ose croire en Dieu et ose crier au Dieu du ciel en disant, toi le Créateur, je ne te connais peut-être pas, mais je crois que tu m'entends. Si tu peux, fais quelque chose pour moi. Ma mère me dit, voici, l'Éternel répondra et le délivrera de toutes ses détresses. Dieu l'a fait pour moi, l'a fait pour tant d'autres que je connais, il le fera pour vous ce soir, cet après-midi, si vous le croyez. Que Dieu soit béni. Amen. Car Dieu est juste. Et l'évangile nous révèle la justice de Dieu. Car Dieu, dans sa justice, ne peut pas tenir le coupable pour innocent. Dieu est un Dieu d'amour. Mais son amour ne peut pas, eh bien, surpasser sa justice. Son amour ne peut pas annuler sa justice. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, restera toujours Dieu de justice. Voilà pourquoi cet après-midi, il veut que vous puissiez comprendre qu'il lui est impossible de mentir. Donc ce que Dieu dit, il le fait. Et pour que sa justice soit accomplie, et que son amour, il continue à le manifester à l'égard de ces créatures que nous sommes malgré la chute dans le péché, Dieu a trouvé le moyen. Car Dieu a suscité Jésus-Christ, celui qui est venu du ciel, celui qui est son Fils éternel. Dieu n'a pas pris l'enfant de quelqu'un, n'en déplaise à ceux qui appellent Marie la mère de Dieu. Non, mes amis, Jésus n'est pas le fils de Marie. Jésus est le Fils de Dieu. Dieu n'a pas pris, eh bien, l'enfant de quelqu'un d'autre. Mais c'est son propre fils que Dieu a donné. Pour que mes amis, lui puissent satisfaire les exigences de la justice de Dieu. Car puisqu'il est impossible à Dieu de tenir le coupable pour innocent, Dieu va pouvoir satisfaire sa justice en faisant en sorte que l'innocent, Jésus-Christ, celui qui n'a jamais connu le péché, celui qui n'a jamais commis de péché, celui qui n'a jamais même dit le moindre mensonge. Car mes amis, c'est là un test.
Sur terre, quand vous trouverez quelqu'un de formidable, vous direz, il n'a jamais fait ceci, il n'a jamais fait cela. Tout ça, ça peut être vrai. Mais si vous dit, je n'ai jamais menti, c'est la preuve que déjà, eh bien, voilà. Il n'est pas parfait. Or, seul Jésus-Christ n'a jamais menti, chers amis. Donc, Jésus n'était coupable de rien. Jésus n'était coupable d'aucun crime. Et pour satisfaire la justice de Dieu, Dieu va donc trouver en lui la victime expiatoire. Ça veut dire l'agneau qu'il va pouvoir immoler, le sacrifice qu'il va pouvoir offrir, pour qu'au travers de ce sacrifice, eh bien, tous les coupables puissent trouver le sang qui ôte leur péché. Car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. C'est pourquoi Dieu va permettre que Jésus-Christ soit crucifié pour qu'il répande son précieux sang. C'est le sang qui va nous laver et nous purifier de tous nos péchés. Mais pourquoi également par la mort de la croix? Car les Juifs, eh bien, quand ils ont attrapé Jésus, ils auraient pu l'égorger. Mais ils ne l'ont pas égorgé. Ils l'ont cloué. Ils l'ont fait clouer. Parce que mes amis, nos crimes, nos désobéissances, nos manquements, nos péchés, nos révoltes, nos blasphèmes, tout ce que nous avons fait, nous faisons de mal à Dieu. Tout cela, il fallait que cela soit jugé et condamné. C'est pourquoi l'Écriture déclare que lorsque Jésus est élevé sur la croix, eh bien, c'est le péché du monde entier qui vient sur lui. Et ainsi, Dieu peut juger et condamner le péché. Le châtiment que Jésus va subir là, cette mort terrible et horrible de la croix, c'est le châtiment que Jésus accepte à ma place et à votre place pour que la colère de Dieu soit détournée de nous malgré les fautes et les manquements que nous avons pu avoir à l'égard de Dieu, la justice. Ainsi, mes amis, l'Évangile me révèle la justice de Dieu en ce que le Dieu juste va pouvoir châtier les fautes et va pouvoir également expier, pardonner, laver, purifier le coupable qui se reconnaît ainsi et qui vient à Jésus, mort sur la croix pour nous. Que son nom soit béni. Alléluia. Mes amis, l'Évangile nous révèle la justice de Dieu. En ce que désormais Dieu dit que tous les hommes sont égaux en la matière, parce que tous ont péché et tous ont cru de la gloire de Dieu. Et un seul va accomplir la justice de Dieu et mettre au bénéfice de cette justice tous ceux qui viennent à lui. Et alors, il devient pour nous justice de Dieu et il devient justification. Ça veut dire quoi? Que Jésus, quand tu viens à lui, Dieu te déclare juste à cause de Jésus. Dieu ne te demande pas de te justifier, mais Dieu te déclare juste parce que Jésus l'a justifié. Amen. Nous étions coupables, certes, mais Dieu dit, parce qu'ils sont venus à Jésus, eh bien, ils sont justes. Dieu, dans sa justice, ne pouvait pas laisser Jésus-Christ dans la mort. Voilà pourquoi le troisième matin, il vient le ressusciter, afin qu'il puisse, une fois pour toutes, paraître devant lui dans la gloire éternelle, afin d'être le médiateur entre Dieu et tous les êtres humains, du juste premièrement, mais de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les tribus de la terre. Que Dieu soit béni. Alléluia. Cet après-midi, donc, l'Évangile me révèle ces choses-là, afin que nous puissions comprendre que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Il concerne tous les êtres humains sans exception, car c'est de la justice de Dieu que Dieu, eh bien, a accompli ces choses et qu'il peut nous les révéler. Or, l'apôtre dit, l'Évangile me révèle la justice de Dieu par la foi, pour que nous puissions comprendre qu'il ne s'agit plus de payer, il ne s'agit plus de faire pénitence, il ne s'agit plus de faire le chemin de la croix, il ne s'agit plus, mes amis, de se faire souffrir,
comme j'en ai vu se flageller jusqu'au sang. Non, Dieu dit simplement, c'est par la foi que tu seras agréable à Dieu, parce que tu mets ta foi dans ce que Dieu a accompli comme acte de justice. Et cela satisfait Dieu pleinement et suffisamment. Alléluia. C'est pourquoi tu seras sauvé par la foi en Jésus-Christ crucifié. Je ne peux plus jamais être indifférent à la croix, parce que la croix me rappelle que Dieu m'a tellement aimé qu'il a accompli un acte de justice qui me rend juste pour l'éternité. Alléluia. Voilà ce que Dieu veut que vous compreniez cet après-midi. Il était de la justice de Dieu que Dieu nous fasse comprendre que personne ne pourra mériter cela, car il ne s'agit pas, eh bien, d'être plus ou moins que les autres, car ce que Jésus a fait, il l'a fait une fois pour toutes, et il l'a fait pour tous. Que son nom soit béni. Alléluia. C'est ça la justice de Dieu, c'est par la foi. Or, la Bible déclare que désormais, c'est la foi en Jésus-Christ qui nous rendra agréable à Dieu, car sans la foi, il est impossible d'être agréable. C'est pourquoi cet après-midi, amis, comprenez l'évangile. C'est par la foi que vous savez ces choses, c'est par la foi que vous allez les saisir, et c'est par la foi que vous allez les vivre. Que Dieu soit béni. Amen. Jésus est mort pour nos péchés, bien plus, il est ressuscité pour nous justifier, et Jésus revient bientôt, car il a souffert tout cela avant de retourner dans sa gloire éternelle, où il a promis de préparer une place pour tous ceux qui croiraient en son nom, parce que mes amis, Dieu nous a déjà révélé que la terre va être bientôt détruite. Dieu nous a révélé que l'humanité ne peut pas continuer comme cela, car l'iniquité va atteindre un point où Dieu ne peut pas faire autrement que de venir détruire, comme il l'a déjà fait dans l'histoire de l'humanité. Chers amis, vous pouvez y croire, vous pouvez ne pas y croire, le déluge n'est pas une légende. Sodome et Gomorre détruits par le feu, ce n'est pas une légende. Dieu veut que vous sachiez que l'Éternel ne peut pas laisser, eh bien, le mal atteindre son paroxysme, car c'est destructeur. Voilà pourquoi Dieu veut vous aider à comprendre que Jésus prépare une place dans son ciel de gloire, afin que tous ceux qui croient dans ce message de l'Évangile, qui sont justifiés par Dieu et par son sacrifice, puisse être avec lui dans la gloire éternelle. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit, c'est parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, que vous allez vivre avec lui, que nous allons vivre avec lui pour bientôt, car Jésus revient bientôt. Amen. C'est pourquoi dans sa justice, Dieu dit, par Jésus-Christ, qu'il faut que cette bonne nouvelle soit annoncée à toute la création. Car il faut que le monde entier, toutes les nations entendent l'évangile, afin que l'évangile leur serve de témoignage. C'est seulement après cela que viendra la fin. Parce que Dieu, dans sa justice, ne veut pas qu'une seule nation soit sans jamais avoir entendu parler de l'évangile de Jésus. Voilà pourquoi nous voulons croire que vous qui l'avez entendu cet après-midi, vous n'allez pas endurer votre cœur, vous n'allez pas dire c'est bien entendu, mais je vais continuer ma voix. Non, cet après-midi, la Bible dit que si vous entendez sa voix, n'endurcez pas votre cœur, car aujourd'hui, c'est le jour de votre salut. Venez donc cet après-midi pour être justifié par Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide cet après-midi à recevoir cette révélation qui vous donnera l'assurance de la vie éternelle. Car pour tous ceux qui rejeteront l'évangile de Jésus, quand Jésus viendra, ce sera trop tard, mais ce sera également terrible. Alors ne voulons pas vous faire peur en vous disant ce qui va se passer. Mais la Bible ne nous cache pas la vérité là-dessus. Pour ceux qui vont rejeter l'évangile, il n'y a plus aucun autre moyen de salut possible. Voilà pourquoi cet après-midi, acceptez, venez à Jésus et venez recevoir le pardon de vos péchés et venez être justifiés devant Dieu pour faire la paix avec le Tout-Puissant qui vous aime. Que son nom soit béni et qu'il vous bénisse.